Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Notre nouvelle chronique du Pays Toulousain d'aujourd'hui vous propose d'évoquer une famille de notables Toulousains très connue, la famille de Berthier. Et au travers de cette famille, nous allons faire un voyage dans plusieurs édifices de la région qu'elle a construit, qu'elle a occupé et qu'elle a quitté aussi. N'est-ce pas Michel?
Oui.
N'est-ce pas Sébastien? On peut vous raconter l'épopée finalement de la famille de Berthier.
Oui, c'est un album à la fois de personnages et de lieux. Rattaché à l'histoire de Toulouse, puisque nous sommes en 2026, je pense que le nom Berthier, si on dit même en précise, Berthier-Montrabé, ou Berthier-Montrabe, c'était le nom à l'époque, Berthier de Saint-Geniès, Berthier de Launaguet, Berthier-Pinsaguel, ne dit pas grand-chose à la plupart d'entre
nous. Alors justement, on va trouver une illustration.
Voilà.
Peut-être
dans l'album, on va trouver des illustrations.
Peut-être
de
le nom de rue Berthier à Toulouse, je ne sais pas, Aline. Hein.
Écoutez, vous me posez une colle,
c'est un Berthier du XXe siècle.
S'il y en a une, je la ferai.
Voilà, qui est peut-être quelqu'un de l'aéronautique, qui sait.
Ah, oui. C'est possible. Oui.
Alors on est entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
C'est une famille assez représentative, même s'ils sont très peu nombreux, bien sûr, de ces familles donc, qui se sont élevées à la fois par, au début dans l'anonymat, mais qui sont élevées à la fois par les alliances et à la fois par les possessions, possessions de seigneurie, petites souvent, et qui se sont rapprochées de Toulouse, qui, génération
quand
après
génération...
Quand
on achète, c'est qu'on a de l'argent. Initialement...
De l'argent, soit par le commerce, nous l'avons dit ça assez souvent dans ces chroniques.
Des brassiers d'un milieu agricole.
Cela, hélas, n'ont peu de champs. C'est arrivé après avec la planche à vilain. Mais je dirais, au moins au XVIe siècle, il n'y a pas tellement de solutions. C'est soit par le commerce, soit par les charges vénales. Et aussi par un troisième canal qui est celui du crédit. En fait, des dettes et des créanciers. Jeu de finances, puisque le système bancaire n'existait pas, tout se passait par ce jeu-là. Et les plus habiles d'entre eux, s'ils avaient un peu d'argent, arrivaient à prêter. Et grâce au système judiciaire de l'époque, ils rentraient très vite dans leurs fonds. Et c'était avec ça qu'ils plaçaient.
Ah, oui.
Quand il y avait quelque chose à vendre, on le ramassait pour très peu. Ça, c'est assez bien documenté aussi. Et donc on peut penser que la famille de Berthier, pour arriver à ce firmament, je dirais, des familles nobles du pays toulousain, ont dû passer certainement par ces canaux-là. Alors, ils sont connus surtout au XVIIe siècle par des positions, pas les plus hautes dans le système judiciaire, épiscopal, enfin ecclésiastique, ou... financier de Toulouse, mais en tout cas des positions très importantes. On nous trouve deux évêques de Rieux, un certain Jean-Louis Berthier, qui est évêque au siècle de Louis XIII, si vous le demandez, Louis XIII, au début du XVIIe siècle. Il est proche de la reine Margot, donc la reine Margot, c'est Henri IV. Vous voyez, tous ces appuis font qu'on est repéré, on est remarqué, on obtient une confiance, et c'est comme ça que s'élève, le nom est connu. À l'époque, on passe pas à la télévision, bien des traces.
Oui.
Et quand on se recommande de la reine Margot, eh bien, on gagne quelques marches dans l'escalier.
Le constructeur de notre hôtel du Mai était le médecin de la reine Margot. Vous voyez, il connaissait certainement Berthier, d'ailleurs.
Et Voiline, en tant que président, digne successeur de Monsieur Dumay. Vous faites vivre tout ça. C'est très bien. Et donc, les Berthier, par contre, ne font plus rien vivre de notre temps, puisque... C'est un nom qui n'est plus porté dans les propriétés dont nous allons parler.
C'est éteinte.
La famille s'est éteinte. Le nom est encore porté dans la branche Berthier de Sauvigny. Mais en tout cas, à Toulouse, non. Il n'y a plus de relation. En tout cas, je vous propose de regarder quatre propriétés.
Mais elle a laissé les traces que vous avez nous présenter.
Alors, tu as évoqué l'évêque Jean-Louis.
Oui.
Il y a aussi Philippe de Berthier.
Alors, pour ceux qui vont aux Augustins, qui est vraiment un but de visite en ce moment à faire, on y trouve le buste de Philippe de Berthier, qui est, pardon, Jean, qui est exposé au Capitole. Et celui de Philippe est aux Augustins, et c'est son fils Jean de Berthier qui est au Capitole. Pardonnez cette confusion, mais ils se ressemblent beaucoup.
Donc une place éminente dans la ville.
Voilà, ouais. Mais c'est ce que nous disions à l'instant, c'est pas le dessus du panier, mais suffisant pour, avec les alliances qui vont avec, s'implanter dans 4 lieux que nous allons évoquer, n'est-ce pas Aline et Sébastien. Je les cite, hein, on les a dit commençant, le château de Montrabe ou Montrabé, façon 20e, 21e siècle.
On est à quelle époque ?
Alors, au tout début du XVIe siècle. C'est un château vraiment... Enfin, la première moitié du XVIe siècle.
Parce qu'il n'existe plus, je pense.
Renaissance. Il a été rasé. Le site internet de la mairie de Montrabé, dit 1804. Il n'y avait plus de château à ce moment-là.
Ah oui.
Il a dû servir de carrière. Il a dû servir de pas mal de choses.
Il est tombé en déshérence.
Mais il a un passé extraordinaire aussi.
Mais je pense qu'on doit le retrouver sur des planches. Vous m'avez dit, Michel, qu'il y a des traces...
Le site de la ville de Montrabé est parfait pour développer tout... Ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus, développer toute cette histoire. Il y a par exemple, je ne retiendrai que cela, la description de la fontaine Montrabe dans les années 1637, qui a été mis en poème...
C'était la fontaine du château ?
Oui, qui a été mis en poème, du jardin, qui a été mis en poème par Goudouli himself. Il lui a dédié une fantaisie intitulée « Description de la fontaine ». Donc, « Je l'entends bien, muse joyeuse, qui vient me hanter à nouveau. Oh oui, reviens te promener dans les campagnes de Toulouse. » Bon, je ne le cite pas en entier. Rendez-vous sur le site de la ville de Montrabé.
Oui. Donc, la beauté de la fontaine peut laisser imaginer la beauté du château.
Surtout la cohérence entre les deux. C'est un beau jardin qui accompagne. On est vraiment dans le milieu humaniste, ça oui. Là, les Berthiers sont champions de cette catégorie-là. Ils vont porter... D'ailleurs, ils sont connus comme, initialement, Berthier-Montrabe. Quand on s'y dit, c'est eux qui vont un temps...
Et donc,
habiter dans le... Parce qu'ils ont, ils ont quand même des demeures en ville, mais pas de... très somptueuses. Enfin, on n'est pas dans les hôtels particuliers des Pasteliers ou des Capitouls. On peut citer l'hôtel de la rue des Marchands, qui a été... qui a encore une tour renaissante, tour d'escalier renaissante. Mais on ne voit plus le château lui-même disparu. L'hôtel particulier. Près de la place des Carmes.
Donc voilà une première traduction concrète de l'aisance des Berthiers. Et puis, il y en a d'autres.
Oui. Alors, ils ne font pas des dizaines de kilomètres. On les trouve à Saint-Geniès. C'est une seigneurie qui existe déjà avant leur arrivée. Mais soit par mariage, soit par, on l'a dit tout à l'heure, acquisition par voie créancière. Ils sont seigneurs à Saint-Geniès, aujourd'hui on dit Saint-Geniès-Bellevue, qui est dans, pas très loin, entre la route d'Albi, si vous voulez, la route de Montauban, dans ce secteur. Et ils gardent la seigneurie pendant un siècle, pas très longtemps, mais ils y font beaucoup de travaux. Actuellement, le château de Saint-Geniès-Bellevue est ouvert à la visite, peut se visiter. Et donc, celui qui fait cette belle construction est un Guillaume de Berthier, docteur en droit et secrétaire du roi, Capitoul en 1595. Voilà. Il y a un plan qui est assez éloquent aussi, qui parle beaucoup, avec des jardins, mais sur beaucoup de dépendances. Aujourd'hui, c'est un château qui a été très remanié au XIXe siècle, qui est inscrit et qui se visite. Non loin de là, nous avons un autre monument historique classé, protégé donc, qui est le château de l'Aunaguet. Et même à 3 km de Saint-Geniès, qui est dans la plaine.
Nous sommes chez les Virebans.
Voilà. Qui est, dans sa vision, dans sa forme actuelle, un catalogue à lui-même. Les tours, les créneaux, les machicoulis, tout ce que vous voudrez. Les escaliers, et puis à l'intérieur, tout le décor de terre cuite. Eh bien, grâce à l'association des Amis de Virebin, également, fait vivre tout ce patrimoine très, très important, alors que la Tuilerie a disparu.
Et on est là, le château de l'Aunaguet a été racheté par la commune il y a un certain nombre d'années.
Oui, au début du XXe siècle, même un peu avant.
Qui a fait des travaux.
Pareil, il a failli disparaître. Et hélas,
la fabrique a en grande partie disparu, en tout cas.
Et même les derniers communs en terre crue, De l'autre côté de la rue, ont été même rasés comme une feuille morte après les avoir laissés en déshérence pour construire des choses assez courantes.
Oui. Avec c'est à l'intérieur tous les moules à pièces, etc.
Oui.
Tout ça a disparu. Mais
le château de Pensagel aussi.
Alors, on va peut-être terminer par
le château de
Pensagel, illustrer la saga.
Qui lui est toujours debout.
Qui est toujours debout et qui est très dynamique également. Repris par la ville, c'est occupé par une association.
Oui.
Qui fait toutes sortes de choses sans rapport avec l'histoire, mais ça l'a, de notre point de vue,
oui,
c'est
ça
neutre.
Fait vivre l'édifice.
Ça fait vivre l'édifice, ça le sauve. Là, c'est plus important. Les Berthier-Pensagel, finalement, c'est eux qui ont duré le plus longtemps. C'était une des branches, si vous voulez, de cette famille, jusqu'au XXe siècle. D'ailleurs, le cimetière de Pensagel, pour les, je dirais, ceux qui s'y rendent, est truffé de tombes à ce nom-là. Et ils n'ont pas pu le garder, très bien. Ce château de Pensagel est extraordinaire du point de vue de son emplacement. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'appelle
la
château de...
De la Liège et de la Garonne.
Mais absolument.
C'est ça, oui.
Donc on a bien
c'est
documenté.
C'est un site exceptionnel.
Parce que c'est une famille qui a beaucoup d'argent. Et fin 18e et pendant la Révolution, on a beaucoup de plans qui illustrent également la magnificence de ces lieux. Le château est... peut faire penser à Merville, si vous voulez. Mais Merville lui-même fait penser à des hôtels du 18e, du centre de Toulouse. Donc on est dans ces châteaux de plaisance. Il y avait sans doute un château fort. D'ailleurs, des gravures illustrent ce propos. Mais ce qui compte, c'est que de la forteresse, on est passé à un château agricole.
De plaisance.
Absolument. Et qu'aujourd'hui, c'est un château qui vit... qui attire surtout du monde. Et par là, peut-être, on peut évoquer l'histoire.
Oui, et puis...
En espérant garder les
c'est là
traces.
Qu'on se dit que toutes ces demeures, eh bien, finalement, elles valorisent. Elles ne sont pas installées n'importe où. Là, on est vraiment dans un site qui est unique.
Unique. Et définitivement protégé, du point de vue de la biodiversité, de l'environnement. Enfin, voilà.
Oui.
Ouvert la visite, peut-être, ce château ?
Alors, il est ouvert puisque l'association l'anime. Tous les renseignements sont faciles à trouver.
Sur Internet.
Auprès de la mairie de
Oui. Le vœu qu'on
Pensagel.
Puisse faire aujourd'hui, nous, Toulousains de Toulouse, c'est que, tout de même, on rééquilibre, les responsables de ce site puissent rééquilibrer l'histoire et mettre tout le monde un peu en cohérence avec les animations actuelles.
Ils ont pris le mordant.
Voilà, on leur souhaite.
On les encourage.
Longue vie.
Alors, bonne visite à tous.
Après avoir tourné la page des Berthier.
Donc, venez nombreux au château de Pensagel lors des événementiels. Merci beaucoup, Michel.
Au revoir, Ali.